Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Pas jusqu'à demain, qu'est-ce qu'on fait?
C'est une fière opération! En arrivant ici, vous n'aviez même pas de plan pour ressortir!
Le cerveau, c'est Luc, chéri!
Mais moi, je connais pas de...
Non, d'un chien, mais qu'est-ce que vous faites?
Il faut bien que je vous sorte d'ici! Tous dans le conduit à ordures, vite!
Mesdames et messieurs, êtes-vous prêts pour la bagarre?
C'est qui le plus fort, l'hippopotame ou l'éléphant? Non, mais l'hippopotame, c'est quand même très très fort.
Messieurs, bienvenue au Fight Club.
Pas de combat, pas d'entourloupe, je veux un combat propre, c'est compris?
Bienvenue dans C'est qui le plus fort, le podcast de la bagarre. Une émission où on aime se faire clasher des personnages, des animaux, des gens qui n'ont pas forcément vocation à le faire, mais que voulez-vous, tels les CNews du podcast, on ne résiste pas à la tentation de répandre un peu l'odeur du sang pour faire de l'audience. Aujourd'hui, on va voir s'opposer deux héroïnes chères à votre cœur, j'en suis sûr, puisque le combat va opposer Princesse Leia et Hermione Granger. Avant de présenter notre arbitre du jour, je me permets de rappeler que C'est qui le plus fort s'enregistrera en public en compagnie de trois autres podcasts Micro Stockholm le 18 décembre à Paris chez Le Tank Media. Le lien pour réserver se trouve dans la description de l'épisode. Alors, pour arbitrer ce combat, je reçois quelqu'un qui a fait ses études à Poudlard et qui a fait un double cursus à la Jedi Academy en la personne de Océane. Salut Océane, comment ça va?
Salut, ça va et toi?
Bah écoute, ça va, prêt à mener à bien ce crève-cœur.
Ouais.
Et d'ailleurs, pourquoi tu as accepté de mettre en opposition ces belles héroïnes?
Eh ben, Leia, c'est l'héroïne qui m'a fait découvrir le cinéma de science-fiction. Hermione, c'est l'héroïne qui m'a fait découvrir la littérature. Donc forcément, c'est un très beau clash qui me brise le cœur à plusieurs niveaux, mais qui va être, j'espère, passionnant.
C'est vrai, t'as raison. Moi, je le prends beaucoup sous l'angle cinéma, de franchise de cinéma, mais enfin, il faut quand même rappeler que c'est un petit peu un livre avant d'être un film Harry Potter,
ça,
enfin la saga Harry Potter.
C'est ça, c'est quand même sept livres qui ont commencé à être parus dans les années 90.
Très bien. Bah alors justement, avant de les faire se taper dessus, est-ce que tu te sentirais de rappeler qui est qui?
Alors, Hermione Granger, donc c'est une moldue. Donc à la base, c'est une jeune fille qui n'a pas de sang de sorcière dans les veines et qui a quand même reçu sa lettre pour aller étudier à Poudlard, l'école de magie anglaise. Et du coup, là-bas, elle va y rencontrer Harry Potter et Ron Weasley et qui vont former un trio qui va un peu semer le bordel à Poudlard, on peut dire ça poliment. Et quant à Leia Organa, c'est une princesse intergalactique qui va se retrouver au cœur des aventures de la rébellion face à l'Empire incarné par Dark Vador. Et dans sa mission pour sauver la rébellion et anéantir l'Empire, elle va rencontrer Luke Skywalker et Han Solo, entre autres. Et ils vont former un trio qui, pareil, va un peu semer le bordel dans la galaxie.
Je viens juste de réaliser en t'entendant dire Leia Organa, c'est Leia Organa et Luke Skywalker.
Ouais.
Est-ce qu'il n'y aurait pas eu un espèce de retcon qui a été fait entre deux épisodes qui fait qu'ils n'étaient pas faits pour être frères et sœurs au départ et qu'ils le sont devenus?
Si, je pense que c'était ça à la base, c'est qu'ils n'étaient pas du tout censés être frères et sœurs et que finalement, Lucas a eu l'idée d'en faire des frères et sœurs pour apporter un peu plus de dramaturgie sur la fin. Ouais.
Entre Un Nouvel Espoir et l'Empire Contre-Attaque, c'est ça.
Ouais, parce que de toute façon, Leia embrasse Luke dans l'épisode 4, un petit bisou. et du coup, oui, c'est très bizarre de revoir ça maintenant.
Bon, il y a eu Game of Thrones depuis, donc
oui, voilà, le public mainstream est habitué à l'inceste.
et j'avais jamais fait attention que Hermione était moldue en fait.
Si, si, ouais, ouais, c'est pour ça qu'elle se fait traiter de sang de bourbe par Drago Malfoy dans le 2. C'est pour rappeler que son background n'est pas du tout sorcier, elle vient pas du tout d'une famille de ce qu'on appelle les sangs purs, comme pas mal de familles, y compris les familles surtout de Serpentard. Et du coup, c'est ça aussi qui la rend intéressante, c'est que c'est une outsider, mais qui en met la pâtée à tout le monde, quoi.
Donc, on peut arriver à devenir sorcier, même si on est moldu.
Ouais, tout à fait.
Je savais pas.
Et si, si. Et c'est, bah, après, je sais pas exactement comment le système fonctionne, comment Poudlard arrive à détecter les gens qui a fait venir à Poudlard, parce qu'en plus, t'as quand même des sorciers issus de sang pur, qui sont ce qu'on appelle des craquemolles, qui en fait n'ont pas de pouvoir magique. Et du coup, c'est comme Ruzard, donc, qui est le concierge. Lui, c'est un craquemolle, c'est-à-dire qu'il est issu de deux sorciers, mais il a pas de pouvoir magique.
Oh là là, là. L'ascension et la chute sociale dans le monde des sorciers, c'est quand même quelque chose d'assez terrible.
Assez fascinant, ouais.
Et ben, on va pouvoir se lancer dans le combat.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Wingardium Leviosa.
Non, stop, stop, stop. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa. Et pas Leviosa.
Fais-le, toi, puisque t'es si intelligente. Vas-y.
Wingardium Leviosa.
Oh, bravo! Regardez tous, Miss Granger a réussi. Oh, splendide!
Comme je disais en intro, on pense à des franchises de cinéma. J'ai pensé à des franchises de cinéma en lançant ce combat. Du coup, j'ai pensé à une première question qui était qui a le plus performé au box-office. Mais c'est vrai que c'est un peu biaisé puisque c'est quand même aussi une héroïne de livre, Hermione.
C'est ça.
On va pas aller jusqu'à comparer les livres de Harry Potter avec les novélisations de Star Wars. Ça serait un peu vilain quand même.
Ah ouais, là, ce serait profond. Surtout, est-ce que tu comptes encore tous les vieux bouquins Star Wars comme faisant partie du canon, alors que tout a été un peu swappé après l'arrivée de la nouvelle trilogie chez Disney?
Alors surtout, je les ai pas lus et puis.
Oui, pareil.
Voilà. Je connais personne qui les a lus et bon, bref.
Moi, je connais pas mal de gens qui les ont lus et apparemment, il y a vraiment des très bonnes choses dans ça. Apparemment, même le dernier en date, je crois que ça s'appelle The Rebellion, je sais plus quoi. Et apparemment, c'est pas mal du tout et apparemment, ça tease un petit peu la relation Poe-Dameron avec Finn.
Ah,
avec
okay.
Des dialogues assez sous-entendus en mode non, Finn, il est pas du tout attiré par Rose ou quoi que ce soit.
D'accord, cool, ok, bon. Mais c'est souvent dans les produits dérivés entre guillemets qu'on trouve les choses les plus audacieuses et dans les comics aussi parfois on retrouve des choses assez intéressantes ouais. Pour ces grosses franchises.
D'ailleurs, je suis assez intriguée qu'il n'y ait toujours pas eu de comics Harry Potter parce que t'as eu des comics d'absolument
tout.
Ah
oui, c'est vrai, tiens, j'ai jamais
pensé. T'as des comics Buffy, t'as les comics Alien, ouais. Predator et tout ça, et on a toujours pas eu de comics Harry Potter.
Ouais, peut-être que JK a pas envie de laisser salir entre guillemets, enfin c'est pas le bon mot mais bref,
ouais, je comprends
trop
ce
modifier
que tu veux dire.
Le matériau de base et qu'il a envie que ça ouais. reste bah, pur
après,
entre guillemets
ouais après tu peux faire en sorte que ça reste pur ouais, mais ouais. Ouais, après peut-être qu'elle a juste pas trouvé la bonne histoire et qu'elle attend qu'il y ait une bonne histoire qui soit
peut-être.
Inventée.
Bon, en tout cas on va faire la bataille des sous du cinéma à défaut de faire la bataille des sous des livres et on aimerait bien savoir entre Leia et Hermione qui est le personnage de cinéma le plus populaire, le plus bankable, qui a eu le plus de spectatrices et de spectateurs.
Et bah, a priori, donc sans compter l'inflation, Hermione a quand même 8 films pour elle. Parce que c'est vrai que le dernier Harry Potter a été divisé en 2 films. Et en tout, la saga Harry Potter a remporté 7 milliards 700 millions de dollars au box-office. Et tous les Star Wars sortis jusqu'à maintenant, c'est pareil, c'est dans les mêmes eaux, c'est du 7 milliards. Mais il faut retirer le fait que Leia n'apparaît pas dans certains films, y compris bah, la trilogie, les épisodes 1, 2... Je sais pas si tu comptes le bébé dans le 3.
Si, je compte le bébé dans
le
3.
OK. Mais donc bah ça resserre un petit peu l'écart, mais le fait est que Leia a moins de films à son actif, ouais. Sachant qu'en plus avec l'inflation, le premier Star Wars sorti en 77 n'a fait que 500 millions de dollars. Donc Hermione a l'avantage pour l'instant. Après je doute pas qu'avec Rise of Skywalker Clairement, je pense que Léa va repasser devant parce que c'est quand même le dernier épisode où on va la voir. C'est le dernier épisode de la saga des Skywalker, comme Disney et Kathleen Kennedy l'ont annoncé. Donc je pense que là, à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est Hermione qui est en tête, mais je pense que ça ne sera pas de beaucoup après Rise of Skywalker.
C'est intéressant parce qu'on a tendance à peut-être pas se rendre compte du phénomène que c'est Harry Potter en termes de... y compris en termes de, que ce soit en livre ou en film, en fait, c'est vraiment énormissime, quoi. C'est comparable à du Star Wars, en fait. Et ça, on n'imagine pas, quoi.
Complètement. Et pour donner un ordre d'idée aux auditeurs, c'est que le film de la saga Harry Potter qui a le moins fonctionné, c'est Harry Potter 3.
Ouais.
Voilà, parce que certains d'entre vous vont un peu grincer des dents. Et il a quand même rapporté 800 millions de dollars.
Ouais.
Donc c'est quand même énorme aujourd'hui pour, je pense que beaucoup de films de dérivés de franchises qui vieillissent un petit peu voudraient bien leurs 800 millions de dollars, quoi.
Ouais, c'est clair.
Et c'est assez dingue de se dire que pour un film comme la saga Harry Potter, donc à ne pas confondre avec la Wizarding World saga, parce que ça compte aussi les Fantastic Beasts, qui fonctionnent pas des masses, faut le préciser. Clairement, 800 millions, c'est quand même beaucoup. Et je pense que même les films de Fantastic Beasts rêveraient de faire 800 millions de dollars parce qu'ils n'atteignent pas ça du tout. Et c'est pas du tout la saga qui fonctionne, espérée par Warner, qui veut quand même tenter le coup. Et là, ils vont commencer à tourner au Brésil avec un troisième opus. Mais pour le moment, ils patinent un petit peu pour le Wizarding World, quoi.
Il y aura toujours Johnny Depp peroxydé ou pas?
Hélas. Rendez-moi Colin Farrell. Il était très bien, Colin Farrell.
Il était bien.
Il était génial.
Ouais, il était super. Ouais. Bon, à ton avis, tu disais que le classement allait évoluer avec la sortie de Rise of the Skywalker. Mais est-ce qu'on est amené, à ton avis, à revoir encore Hermione et Leia un certain nombre de fois au cinéma ou pas?
Leia, je sais pas s'ils vont oser parce que Carrie Fisher est morte. Ça a été dit par Disney, par J.J. Abrams et tout ça, que normalement Leia était censée être vraiment au cœur de Rise of Skywalker. Du coup, les scènes qu'elle va avoir dans le film, c'est vraiment des morceaux de Last Jedi qui n'avaient pas été utilisés. Donc je sais pas s'ils vont oser réutiliser Leia après, s'ils la réutilisent. Je reprends une idée de mon camarade Damien qu'il avait exprimé sur Twitter, mais c'est vrai que ce serait intéressant de voir Leia, jeune, qui fait ses premières passes d'armes dans la rébellion, qui est confrontée à son identité de fille adoptée, parce que du coup, à la base, c'est quand même la fille de Dark Vador, mais qui a été séparée de son frère. Et elle, du coup, par rapport à Luke Skywalker, qui a été élevée dans un milieu assez, assez prolétaire, dans une ferme au milieu de nulle part, elle a quand même grandi dans l'aristocratie, c'est une princesse. Et du coup, ce serait intéressant de voir comment elle a grandi justement dans cet environnement, comment elle s'est adaptée à ses codes et comment, son esprit de rébellion s'est formé. Donc ça, en soi, ce serait intéressant. Après, je verrais pas forcément ça au cinéma. Parce que je pense que le cinéma nous a prouvé que les vieux héros ne rapportaient plus autant que ça. On voit l'échec de Solo. Ça a été une vraie douche froide pour Disney, qui en plus a eu plein de difficultés créatives avec Phil Lord et Chris Miller, qui du coup ont dû se barrer en cours de route. Donc je pense que si on revoit Leia, ce serait peut-être plus sur Disney+, justement.
Ouais, espérons. Bon, en tout cas, on est à l'abri d'une Carrie Fisher en CGI pendant quelques temps. Enfin, je l'espère, en tout cas, quoi.
Je pense aussi, et l'apparition de Leia dans Rogue One à la fin a été tellement tièdement accueillie, j'ai envie de dire. Je pense que Disney a retenu la leçon, en fait, de tout ça. C'est que si on peut éviter de modéliser le visage des acteurs morts, on évite. Et j'espère qu'ils tiendront sur cette lignée, pas comme l'autre studio qui va remodéliser James Bidin pour un film.
J'ai vu ça, quelle horreur.
Ouais.
Et alors Hermione, elle va revenir au cinéma ou pas?
Pour le moment, non, c'est pas dans les plans du tout. À titre personnel, je ne l'espère pas. Déjà, j'ai beaucoup de mal avec ce que J.K. Rowling et Jack Thorne ont fait d'elle dans The Cursed Child, la pièce de théâtre. Vraiment, j'étais assez déçue. Pour moi, c'est clairement un rôle tertiaire qu'elle a dedans et qui n'a pas vraiment d'intérêt. Moi, je suis bien avec là où on a laissé Hermione au cinéma, mal vieillie par le maquillage, pour qu'elle paraisse plus vieille avec des petites boucles d'oreilles en forme de perles. Moi, je considère que Hermione est très bien là où on l'a laissé.
Il n'y a pas d'adaptation au cinéma prévue pour L'Enfant Maudit, du coup?
Il y a des rumeurs. Moi, j'attends de voir. Après, je pense qu'on finira par y arriver quoi qu'il arrive. Après, il faut voir, est-ce qu'ils vont reprendre Emma Watson ou est-ce qu'ils vont continuer sur la ligne de la pièce de théâtre qui avait engagé une acteur noire, ça avait fait une actrice noire. Ça avait fait une polémique immense. J.K. Rowling était montée au front en disant « mais ça ne me pose aucun souci ». Mais j'attends de voir qui pourrait engager pour jouer Hermione adulte. Parce que bah, du coup, Cursed Child inclut une nouvelle dynamique avec une actrice noire. Donc est-ce qu'ils vont continuer sur ça ou est-ce qu'ils vont retourner à une actrice blanche? Ça, je pense que ce sera une question assez épineuse.
Bon, très bien. En attendant de trancher des questions épineuses pour plus tard, on a déjà tranché le premier point pour Manon et Hermione a marqué le premier point.
Il faut dire que c'est une petite princesse qui n'est pas une petite princesse à l'apéro, c'est-à-dire très alanguie, très tranquille. C'est une petite princesse qui se bat,
oui.
Qui a du caractère.
Oui, c'est à Georges, le réalisateur. Oui, il a écrit le script de Star Wars aussi et il a fait les caractères pour tout. Très spécifique, très, très bien, je pense, parce que ce n'est pas une victime de princesse. Elle est très forte et c'est bien. Il n'y a pas beaucoup des femmes fortes dans les films maintenant.
C'est vrai, même en Amérique?
Oui,
même
plus
en Amérique.
Oh,
oui, il n'y a pas qu'en Europe, hein, finalement.
Alors, deuxième question, qui a le plus sauvé la vie de ses amis, entre parenthèses, un peu idiot? Parce que dans tous
les Hermione.
Cas...
Ah, c'est Hermione.
Ah oui?
Ah ouais, complètement.
Tu trouves que les amis de Leia n'étaient pas trop idiots?
Si, ils étaient quand même bien idiots, mais non, c'est vrai que Leia a quand même sauvé Han Solo, surtout dans l'épisode 6. Après, clairement, c'est Hermione qui sauve tout le monde, même quand elle est pétrifiée, elle arrive à sauver ses amis en leur donnant des astuces. Je pense au retourneur de temps, je pense dans le 4 où elle aide Harry à pratiquer la magie en attendant qu'il affronte le Maguire à pointe. Dans le 5, évidemment, dans le climax. Dans le 6, pareil aussi. Et dans le 7, évidemment. Moi, pour moi, c'est clairement Hermione qui sauve le plus les gens. Et c'est marrant d'ailleurs parce que ça commence à de plus en plus. Les gens se rendent compte que c'est quand même Hermione qui sauve la mise beaucoup de fois. Et du coup, il y a une version d'un des tomes d'Harry Potter qui a été écrite du point de vue d'Hermione.
Ah bon?
Ouais, je sais plus lequel c'est. Mais en gros, tout le bouquin, c'est Hermione qui est à Poudlard. Qui parle à Harry et on voit tout le bouquin de son point de vue à elle,
d'accord.
Comment elle sauve les autres en fait.
Ok, je savais pas.
Et je sais plus lequel c'est, donc j'essaierai de retrouver le lien pour le podcast, mais ils avaient fait un truc comme ça et c'était super intéressant de voir à quel point, en fait Harry en plus il le reconnaît lui-même. C'est ça qui est intéressant, c'est que lui-même dit « sans mes amis je ne serais rien ». Et là, en l'occurrence, l'auteur de ce bouquin, de cette réécriture, l'a pris au pied de la lettre. Et du coup, c'est très intéressant. Ouais.
Alors là, j'avais dit qui a le plus sauvé ses amis, la vie de ses amis, entre parenthèses, un peu idiot. Sur le côté, dans la troupe, il y a quelqu'un qui est là pour sauver la journée, comme on dit. C'est vrai que par rapport à ses amis, c'était plutôt Hermione. Après, Leia, elle a eu un rôle peut-être plus important... vis-à-vis du sauvetage de la galaxie de l'univers.
Ouais, après Leia, entre guillemets, elle a juste eu que 3 films pour le montrer. Ça, bon, après, je compte aussi Last Jedi, dans lequel elle a son fameux moment dans l'espace, qui a été beaucoup moqué, mais qui, je trouve, a quand même le mérite de nous rappeler que Leia est une Jedi,
oui.
Que c'est une Skywalker, et que ça n'arrive pas là par hasard. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, maladroitement filmé, mais je trouve que l'intention était vraiment très belle. Après, le souci, c'est qu'elle passe quand même une bonne partie du film dans le coma. Ça dilue un petit peu l'impact. Mais pour moi, ça reste quand même Hermione, parce que tant au niveau moral, parce qu'elle est quand même là pour aider Harry lorsqu'il s'embrouille avec Ron dans l'épisode 4. Elle est une des seules avec Ron à soutenir Harry lorsqu'il dit que Voldemort est revenu et qu'au final, personne ne les croit. Mais Hermione y croit et elle forme même l'armée de Dumbledore dans le 5. Pour moi, c'est clairement elle qui sauve The Day à chaque fois.
Ce qu'il faut dire aussi pour un peu redonner de lustre à Leia dans ce round-là, c'est que c'est pas la même époque non plus. Quoi.
Ah oui, clairement.
La pauvre Leia en 77, il y avait pas beaucoup de princesses qui étaient là pour déjà qui maniaient un blaster et qui accompagnaient les héros dans la bagarre. Déjà, c'était assez
clairement.
Rare.
Ah ouais, non, mais c'est pour ça aussi que j'adore Leia, c'est parce que c'est une précurseur de la SF.
Ouais. Bon, mais écoute, en tout cas, avec tout ça, ça nous fait quand même 2-0 pour Hermione.
200 points pour Gryffondor.
Qui décidément...
Mauvais départ. Mais il reste quand même 3 points.
Il reste encore des rounds à disputer.
Mon père m'a dit que je pourrais garder la tête de l'hippogriffe. Je vais l'accrocher dans la salle commune des Gryffondor.
Mais non !
Ça va être géant.
Bah tiens, regarde qui est là.
Alors, on vient voir le spectacle ?
Tu vas voir, espèce de sale petit cancrelat répugnant ! Hermione, non ! Il n'en vaut pas la peine. Hermione.
Ah.
Malfoy, ça va aller?
Viens, Drago.
On va aller nous voir.
Vite.
Hé, hey, attendez-moi.
Vous n'en parlez à personne.
Ça fait du bien.
Cette sorte de bourbe à
nous aussi. Beaucoup de bien.
Alors, question suivante. Qui a le mieux géré son équilibre vie amoureuse, vie professionnelle, comme on dit un petit peu dans les formulaires d'évaluation de fin d'année dans les grandes entreprises, équilibre vie professionnelle, vie privée. Alors à ton avis, entre Hermione et Léa, qui a le mieux géré
C'est clairement Hermione, décidément. ouais, Hermione, elle a un boulot au ministère de la magie, alors je sais plus à quelle branche exactement. Mais elle a un boulot au ministère de la magie, elle est toujours mariée à Ron, ils ont des enfants, Rose et Hugo. Parce que du coup, donc, le Hugo, c'est le H de Hermione, et le Rose, c'est le R de Ron. Ils nous ont fait une Will Smith, Jada Pinkett Smith.
Ah, c'est star.
J.K. Rowling nous a un peu fait ça. Mais le truc, c'est que Léa, et c'est quand même plus intéressant pour moi de voir que Léa, elle a voulu la vie amoureuse avec Yann Solo, elle a voulu la vie de famille avec Ben Solo. Ouais. Et en même temps, elle a voulu garder quand même des responsabilités et tout a foiré. Quasiment tout a foiré, c'est-à-dire qu'on a un nouvel empire qui est apparu. Yann Solo s'est barré parce qu'il n'arrivait plus à assumer la charge de père, surtout après ce qui s'est passé à l'école de Luke. Mais du coup, je trouve que c'est plus intéressant et plus déchirant de voir que Léa n'a pas réussi, en fait. Du coup, si on devait parler simplement de succès, c'est Hermione qui gagne, mais en matière de narration, je trouve que c'est Léa qui est plus intéressante. Parce que justement, on voit tout le temps les modèles de femmes qui sont censées réussir en tout. Et Léa, en fait, bon, on se rend compte qu'elle n'a pas trop réussi en tout, mais qu'elle reste quand même la figure super courageuse et déterminée qu'elle est, et que même si, à titre personnel, elle a perdu beaucoup de choses, et que Ben Solo a tué son père et qui l'a zigouillé pas mal de gens, elle se bat quand même. Et du coup, rien que pour ça, j'ai quand même envie de donner le point à Léa, parce que même si elle n'a pas réussi, elle essaie encore et encore de tout faire pour que ça fonctionne.
J'aime beaucoup cette analyse et ce point de vue. C'est vrai que moi, ce que j'aime bien dans la nouvelle trilogie, c'est le côté... tout a foiré en fait.
Oui.
On était bien et tout a foiré.
C'est
et
ça.
Alors c'est pas trop expliqué. Et en même temps, tant mieux. J'ai pas envie non plus qu'on nous ressorte encore une nouvelle trilogie pour nous expliquer pourquoi ça a foiré entre les deux trilogies.
Ouais,
c'est juste comme ça. C'est shit happens quoi.
Oui, parfois c'est genre c'est la vie. C'est genre tu rencontres un mec, tu veux passer ta vie avec lui et ça foire quoi. Enfin,
ouais.
Et c'est con à dire, mais moi j'adore le duo Yann Solo Léa, mais en fait. Quand tu les connais un peu, tu sais que c'était pas voué à fonctionner pour toute la vie. Ils étaient en couple, ils ont eu un gosse. Ça, je m'imaginais qu'ils aient ça. Mais qu'ils soient mariés, qu'ils vécurent heureux, ils auraient beaucoup d'enfants. Ça aurait pas été rendre justice aux deux personnages que de leur créer cette dynamique.
Et en même temps, on imagine aussi Ron, peut-être un père de famille un peu plus présent, un peu plus équilibré, un peu plus structuré.
Plus chaleureux. c'est un peu le papa cool, là où Hermione, on l'imagine un petit peu plus tirée à quatre épingles, mais quand même très aimante. C'est ce que montre un petit peu The Cursed Child, mais très mal fait.
Bon, ok. Eh bien, Léa remonte au score. Jusqu'où sa remontée va-t-elle aller? Vous le saurez dans le prochain round.
Ne tirez pas, ils vont entendre!
Toi ici, grand lâche. Chico, viens ici.
Écoutez, qui vous êtes, je n'en sais rien. D'où vous venez, je n'en sais rien non plus. Mais à partir de maintenant, vous ferez ce que je vous dis, compris?
Tiens donc, vous aussi, votre splendeur, vous allez m'écouter. Il n'y a qu'une seule personne à qui j'accepte d'obéir, c'est moi.
C'est étonnant que vous soyez encore en vie. Et débarrassez-moi le plancher de cette grosse carpette ambulante.
Mais tout l'or du monde ne vaut pas ça.
C'est peut-être le dernier round, puisque là, si jamais Hermione gagne, c'est fini. Et sinon, il y aura un jeu décisif. Et la question est, qui gagnerait un combat direct?
C'est... Bah, le truc, c'est que Hermione a toute la magie derrière elle. Et Léa a la force, plus la maîtrise du blaster.
Le blaster, c'est le petit plus. Peut-être que Léa, enfin, Léa est un général.
C'est un général, donc elle a la maîtrise tactique. Elle a. Ouais, c'est vrai que j'avais pas pensé à la force, mais maintenant que tu le dis, la force pour moi est plus puissante que la magie. Sachant que la magie, c'est quand même quelque chose d'assez pratique qu'il faut pratiquer, c'est-à-dire que, bah, comme la force, tu dois aussi la pratiquer pour. Mais il y a peut-être quelque chose de un peu trop limité dans la magie. Et.
Mais Leia, ouais. son utilisation de la force, c'est un sujet un peu compliqué dans Star Wars.
C'est très compliqué parce que jusqu'à présent, personne n'avait eu la gentillesse jusqu'à Rian Johnson, personne n'avait eu la gentillesse de nous rappeler ça, n'est-ce pas, J.J. Abrams?
À part les voix ou des
ouais,
trucs comme ça,
les voix dans l'épisode 5 où elle entend Luke qui l'appelle. Mais moi, je pense que ce serait Leia. Parce qu'elle aurait une plus grande maîtrise de ses gestes. Elle serait peut-être capable de faire croire plus de choses à Hermione. Et surtout, après, Hermione maîtrise un peu les sortilèges sans baguette. Attends, sans baguette ou sans le dire à haute voix. Parce que dans le 6, ils apprennent justement à formuler des sortilèges sans le dire. Parce que c'est vrai que ça, quand tu dis le sortilège... Ça annule l'effet de surprise et je pense que Léa serait capable de créer un bouclier, décasser le sort que Hermione veut lui lancer. Mais je pense que je dirais Léa parce que la force, ça va plus loin que la simple magie.
Ok, bon, alors ça fait deux partout.
Ouais, c'est le vif d'or qui arrive là.
Voilà, exactement.
Hermione, heureux de te revoir.
Merci, Sir Nicolas. Harry, Hermione est là. Content de te revoir, Hermione.
C'est bon d'être là. Félicitations, je ne reviens pas que vous ayez réussi.
Oui, mais tu nous as beaucoup aidés. On n'y serait pas arrivés sans toi.
Merci.
Alors, on a mis l'enregistrement en pause pendant deux semaines pour réfléchir à un jeu décisif avec Océane. Et on a trouvé quelque chose, c'est la question de qui a eu le plus d'impact.
C'est ça, et c'est dur à dire, mais je pense qu'Hermione a impacté beaucoup de jeunes filles de la génération 90-2000, parce que c'était quand même une héroïne qui se laissait pas marcher dessus, qui était quand même plus puissante que ses camarades. Là où par contre Leia a peut-être eu un impact sur des jeunes filles peut-être plus âgées aujourd'hui, mais surtout elle a réussi, et ça aussi je pense que c'est grâce à Carrie Fisher, qui est quand même une script doctor sur les films Star Wars et sur d'autres films d'ailleurs. C'est une mission qu'on les connaissait assez peu, mais quand il s'agissait de réécrire, elle réécrivait. On se souvient beaucoup de Leia, entre autres pour son bikini doré et ses macarons. Mais le fait est qu'au fur et à mesure de la trilogie, son apparence a quand même beaucoup évolué. Et je trouve ça super intéressant de voir qu'elle est passée de princesse en détresse à véritable guerrière, à un soldat super accompli. Et dont l'apparence change parce qu'elle passe d'une robe à une tenue plus pratique pour le combat, à même sa coiffure aussi qui évolue avec ses nattes. Et je trouve que c'est un symbole super, super puissant de girl power parce qu'elle a aussi une dynamique très intéressante avec Han Solo. Donc il y a pas mal de gens qui disent oui, mais son baiser avec Han Solo dans l'épisode 5, c'est un peu lui qui y va. Enfin, en attendant, je pense qu'elle aussi, elle voulait un petit peu son bisou. Et je trouve que c'est intéressant de voir qu'elle est sur tous les fronts. Là où, pour Hermione, après, c'est un autre âge aussi. Parce qu'Hermione, on la voit quand même grandir de 11 ans à 17 ans.
Ouais.
Là où Léa, on l'apprend, elle est jeune. Enfin, elle a 20 ans, elle a une vingtaine d'années, on va dire. Mais je trouve que Léa a un impact peut-être plus intéressant... Pas seulement sur les gentils, mais aussi sur les héroïnes de science-fiction, sur la représentation des héroïnes de science-fiction. Là où Hermione, je trouve que le fait d'avoir engagé une actrice vraiment très jolie, comme Emma Watson, ça a un peu perdu en impact parce qu'au fur et à mesure des films, Ils ont totalement perdu ce qui faisait le côté d'Hermine, c'est-à-dire les cheveux en broussailles, les dents pas très droites. Elle a une apparence super banale, Hermione. C'est vraiment la girl next door. Et dans les films, ils ont fait en sorte de rendre Emma Watson un peu plus canon à chaque fois. Et je trouve ça dommage parce que du coup, plus ça allait, moins j'arrivais à m'identifier à elle. Et là où Leia, justement, plus ça allait, et plus elle devient une héroïne normale. Parce qu'elle sauve tout le monde, y compris Han Solo, justement. Elle sauve son prince charmant dans une belle inversion du truc, parce que c'est Han Solo qui est endormi et c'est elle qui le réveille de la carbonite. Et c'est pour ça que pour moi, Leia a peut-être eu plus d'impact. Et je pense aussi que l'engagement de Carrie Fisher n'y est pas pour rien.
D'accord, très bien.
Sans forcément sous-évaluer ce que fait Emma Watson pour les causes féministes, avec son book club, avec toutes ses initiatives He for She et tout ça. Elle incarne un nouveau féminisme, mais je trouve que Carrie Fisher aussi incarnait déjà beaucoup de choses à l'époque, et surtout de ce qu'elle a apporté par rapport au stigma sur les maladies mentales dont elle a beaucoup, beaucoup souffert, son alcoolisme. Les dictats de l'apparence, je trouve que Carrie Fisher et Leia, en fait, c'est la même personne. Ouais. Je trouve que c'est une personne plus intéressante à l'heure actuelle que Emma Watson.
C'est vrai que Leia ne serait pas la même Leia sans Carrie Fisher.
Ouais.
On ne sait pas si c'est la même chose pour... Enfin, non, c'est sûr que non, parce qu'elle était enfant, Emma Watson, quand elle a commencé. Enfin, on n'avait pas demandé à une enfant de 11 ans de réécrire un personnage déjà présent dans des livres et tout, quoi.
Moi, je pense que la différence entre les deux, c'est que Carrie Fisher a insufflé de la Leia, a influencé Leia avec ce qu'elle a vécu. Par contre, pour Emma Watson, c'est Hermione qui a apporté de l'eau à son moulin. Et je pense aussi que c'est le fait qu'il y ait des bouquins qui aient fait ça. Et une anecdote que je trouve assez rigolote, c'est que quand les trois acteurs d'Harry Potter ont été engagés, on leur a dit « Faites-nous une dissertation sur votre personnage ». Et Daniel Radcliffe a fait une page. Rupert Grint n'a rien écrit du tout. Et Emma Watson a fait une dissertation ultra complète sur le personnage d'Hermione.
C'est incroyable. C'est l'image des personnages.
Et du coup, je pense que c'est vraiment là qu'est la différence. C'est que Hermione a influencé Emma Watson, mais c'est Carrie Fisher qui a influencé Léa. Mm. Et je trouve ça toujours plus intéressant quand un acteur met de lui dans un rôle plutôt que l'inverse.
Tout à fait. Bah écoute, c'est une belle conclusion.
Ouais.
Leia remporte le match. Elle était très mal partie, mais elle a fait une remontée du diable au vert, ouais. Comme on dit. même si Hermione s'est bien battue. Et y a beaucoup d'amour pour ces deux personnages, de toute façon.
Ah oui, bah j'avais autant d'affiches de Leia que d'Hermione dans ma chambre quand j'étais gosse.
Bon, bah super. Merci beaucoup, Océane.
Bah merci, c'était un beau combat.
Où est-ce qu'on peut te retrouver ?
Alors, j'anime le Nemon Adaptation Club, qui est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Et le prochain épisode à sortir, c'est Minority Report. Et celui d'après encore, ce sera Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Donc on va analyser la BD, le dessin animé et le film d'Alain Chabat. Ça risque d'être assez intéressant. Sinon, vous pouvez me retrouver de manière assez régulière dans Hyperlink, l'émission pop culture de VL Media, tous les dimanches de 17h à 18h30.
Ok, super. Bon, écoute, on invite tout le monde à aller te retrouver sur ces liens-là qui seront présents dans la description de l'épisode. Moi, je fais le petit laïus de fin habituel. Je vous rappelle que vous pouvez soutenir l'émission sur Tipeee si vous le souhaitez, ce qui permettra d'assurer le rythme, de continuer d'organiser des enregistrements en public comme celui qui aura lieu le 18 décembre en compagnie des autres d'autres podcasts, décidément je bafouille, qui sont Stockholm Sardou, Les Rois du Monde Estonien, etc., qui ont fait coucou à l'équipe qui est en pleine effervescence depuis qu'ils ont appris que Starmania revenait en 2020. vous aurez également un petit bulle d'art en ouverture. Et puis, vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux, sur Twitter, c'est qui le plus fort, sur Facebook, c'est qui le plus fort, le podcast. Et vous pouvez nous dire, selon vous, qui mérite de gagner. Je vais remettre en place les petits sondages aussi pour que vous puissiez voter. Et voilà, C'est qui est plus fort est un podcast Micro Stockholm, produit et réalisé par moi-même, Martin Gamara. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour un nouvel épisode. Et je te dis à très bientôt, Océane.
À bientôt.
Intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.